C'est aujourd'hui que commencent les journées européennes de l'archéologie. 3 jours de visites guidées dans des musées et sur des sites de fouilles. Manifestation à laquelle Arte consacre une programmation spéciale demain. Une dizaine de documentaires de midi à minuit. Des films qui nous emmènent en Égypte, au Mexique, en Italie et en France, à Narbonne précisément, sur des sites antiques, lieux d'incroyables découvertes qui témoignent de la puissance de la ville à l'époque romaine. Bonjour Alain Tixier.
Bonjour.
C'est vous qui avez réalisé ce documentaire sur Narbonne. Je donne le titre Narbonne, la seconde Rome. Titre éloquent. En quoi Narbonne pouvait-elle être comparée à Rome ?
Alors effectivement, Narbonne, on sait que c'est une ville de province, effectivement, dans le sud de la France, mais peu de gens, et j'avoue que moi-même, je ne savais, avant de faire ce film, je ne savais absolument pas que Narbonne avait été une des villes, une des métropoles les plus importantes romaines en Gaule. Et même plus qu'une métropole romaine en Gaule, c'était non seulement la capitale d'une immense province qui était la Narbonnaise, qui allait de Genève jusqu'à Prétarbe, qui était la plus grande province gauloise, mais c'est surtout que ça a été le deuxième port romain le plus important de la Méditerranée occidentale. Et effectivement, les installations portuaires de Narbonne, dont on parlera peut-être tout à l'heure, effectivement faisaient 2 kilomètres de long. C'était de là partait l'huile d'Andalousie pour alimenter effectivement Rome et puis les provinces romaines de la Méditerranée. C'est de là que partait le vin de la province de la Narbonnaise. C'est de là aussi que partait le fer ou le charbon de la Montagne Noire dans le Massif Central. C'était une ville effectivement très importante, certainement 2 à 3 fois plus peuplée que des villes que l'on connaît bien, des villes romaines comme Nîmes et Arles, avec des bâtiments exceptionnels, un capitole qui faisait 100 mètres de long, qui était 2 fois plus haut que le temple romain le mieux conservé, qui est à Nîmes, qui est la Maison Carrée. Ouais. Voilà, c'était une ville d'un lustre qu'on n'imagine absolument pas.
On ne se rend absolument pas compte de ce que c'est. Même cette phrase 100 mètres de long, c'est abstrait, juste pour situer. 100 mètres de long, c'est un bâtiment de la longueur d'un terrain de football. À l'époque de l'Antiquité, c'était quand même considérable. Narbonne était parfois décrite par les auteurs antiques comme ayant une architecture de bâtiment éblouissante. Comment être certain de tout cela aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il n'y a aucun bâtiment de l'époque, contrairement à Nîmes ou Arles, qui soit encore debout ?
Alors on ne retrouve plus rien en surface, ou très peu de choses. Par contre, le sous-sol de Narbonne est extrêmement riche, et les fouilles qui ont déjà été faites depuis plusieurs décennies, voire même dans les siècles passés, ont permis effectivement d'exhumer des vestiges de ces grands monuments. C'est-à-dire qu'on a retrouvé, par exemple, lors de la construction du collège Victor Hugo, qui est le grand collège dans le centre de Narbonne, on a retrouvé les vestiges du Capitole. On a retrouvé des colonnes de marbre qui faisaient 18 mètres de haut, on a retrouvé les emplacements en fin de compte de ce Capitole, ce qui a permis effectivement d'en reconstruire, enfin d'en retracer complètement la position et la longueur. Donc effectivement, c'était un bâtiment énorme, tout en marbre. Il a fallu, je ne sais plus combien, je crois que c'était 50 bateaux contenant 220 tonnes de marbre chacun pour construire ce Capitole. C'est énorme de toute façon. Mais c'est pas le seul bâtiment. Il y avait des arènes, de 25 000 places. Qui se trouvait à quelques centaines de mètres, en fin de compte, du Capitole. On retrouve effectivement des emplacements de domus, c'est-à-dire de maisons, de riches narbonnais, enfin narbonnais romains, puisque Narbonne était une ville romaine, ouais, habitée par des Romains. Enfin, ouais, pour reparler un petit peu de l'histoire de Narbonne. Et effectivement, on retrouve des maisons qui faisaient 900 mètres carrés au sol, avec des peintures murales, des fresques murales, qui étaient dignes de celles que l'on retrouve à Pompéi.
Et là, fresques, on a retrouvé, mais c'est carrément un jeu de dominos avec des morceaux de 2 mm sur 3 mm, et ça a été reconstitué, c'est absolument prodigieux. Il y a aussi des images en 3D, on va en parler. Alors, il n'y a pas de bâtiment antique à admirer, on l'a dit, mais de nombreux sites de fouilles. C'est le cas notamment du site de la Robine, immense nécropole, découverte il y a seulement 2 ans. C'est le plus grand site de fouilles en France, près de 4000 m². Les recherches ont pris fin en novembre dernier. Elles ont permis de mettre à jour près de 1400 sépultures et d'obtenir des infos plus précises sur certaines pratiques funéraires. C'est ce que vous a expliqué l'archéologue qui a dirigé ces fouilles.
On a aussi des vestiges de ce qu'on appelle des conduits à libation, qui sont constitués de morceaux d'amphores. Donc ces sortes de tubes qui mettaient en relation la surface avec l'intérieur de la sépulture et qui permettaient donc aux vivants de rendre un hommage aux défunts en versant des liquides ou en faisant des offrandes d'objets ou de cadeaux aux défunts. Et donc ça, c'est une pratique qui n'est pas inconnue ailleurs, mais qui est rarement conservée de cette manière-là.
Valérie Bell, pardon, archéologue, ce qu'elle dit donne une bonne idée de ce qu'est son travail, une activité scientifique, pointue, minutieuse, loin des découvertes spectaculaires auxquelles on peut parfois l'associer. Justement, question au réalisateur que vous êtes, question média, comment filmer quelque chose et rendre spectaculaire quelque chose qui ne l'est pas ?
Alors là, c'est une excellente question.
Merci.
Je crois qu'au bout d'un moment, il y a une question un peu d'habitude de savoir effectivement à quel moment intervenir. Alors c'est vrai que filmer des fouilles, c'est pas très simple. Alors ces fouilles-là, quand même, étaient quand même un petit peu exceptionnelles. Hein. 750 tombes. Alors quand on dit 750 tombes, 10% de ces tombes, de toute façon, étaient des inhumations. Donc on retrouvait des squelettes, des coffrages en bois, etc. Et les autres, 90%, c'était des crémations. En fin de compte, puisque c'était en fin de compte les coutumes funéraires de l'époque, les gens se faisaient crémer. Donc là, on retrouve effectivement des vases, des choses de genre, des petites poteries, mais une urne funéraire, mais on ne retrouve pas de corps. Et effectivement, c'est vrai que ces archéologues qui travaillent dessus, d'abord, les archéologues, ce sont des personnages. Donc effectivement, déjà, il faut déjà un petit peu voir effectivement quels vont être les bons personnages, comment vont-ils réagir, comment vont-ils nous expliquer. Alors on essaie de ne pas faire des interviews sèches comme ça, mais des interviews en situation. Et parfois, effectivement, c'est vrai, quand vous avez une jeune archéologue qui découvre quelque chose d'exceptionnel, de toute façon, qui d'un seul coup essaie de comprendre qui était l'individu qui était inhumé, effectivement, on arrive parfois à trouver des petits moments de grâce, en fin de compte, pour faire vivre ces fouilles.
Justement, je vous interromps, petit moment, vous filmez de jeunes archéologues qui ont les mains dans la terre et qui témoignent à la fois de leur découverte et de leurs conditions de travail.
On a mis du temps avant de comprendre, mais on a enfin déterminé qu'il était sur le ventre et pas sur le dos. Et effectivement, il est exactement dans la même position que moi. Pour moi, c'est une grande première, là. Dans un cercueil sur le ventre, je n'avais jamais fait.
Là, on est très très proche de leur ville, donc le cours d'eau de Narbonne. De fait, la nappe phréatique est très très proche. Donc dès qu'on creuse un peu, on se retrouve avec la nappe phréatique affleurante et on a beau pomper, elle revient systématiquement. Dès qu'on arrête de pomper, ça veut dire qu'elle est toujours présente.
Alors, le jeune archéologue, faut l'imaginer en train d'écoper avec une pelle et un seau à la main, les pieds dans la boue. Sa collègue, elle est allongée à plat ventre sur des planches pour faire apparaître peu à peu le squelette dont elle parle. Tout ça pour dire que dans votre documentaire Alain Tixier, vous montrez aussi les conditions de travail de ces archéologues. Vous leur avez fait refaire des scènes. Vous étiez comme ça, au fil, comme si c'était un reportage.
Non, on a essayé de filmer le plus possible sans leur faire refaire des scènes. J'ai fait un film sur l'archéologie en Éthiopie il y a 2 ans où effectivement, les conditions étaient différentes. On a fait refaire certaines séquences parce que les choses allaient assez vite, alors que là on essayait de ne pas trop intervenir effectivement dans le travail de ces archéologues. Le temps leur était compté,
ouais.
Et bon, c'était à nous de nous adapter. De toute façon, on essayait de faire du grand documentaire, mais effectivement un peu sous forme, ouais, de reportage. C'est-à-dire qu'il faut vite saisir la situation, avoir des chefs opérateurs qui soient extrêmement rapides. Là, on n'avait qu'un seul chef opérateur, le reste il était obligé d'être un petit peu partout, et puis tout de suite de voir quel va être le personnage qui va pouvoir à un moment hanter la fille qui découvre. Enfin, cette jeune doctorante ou archéologue, je ne sais plus, une trentaine d'années, qui découvre ce squelette, en fin de compte, dans une position sur le ventre. Bon, pour elle, c'était exceptionnel. Et là, ces petits moments-là à saisir. Mais on a eu un moment, une chance absolument extraordinaire, qui est une séquence qui se trouve vers la fin du film. C'est-à-dire qu'on est arrivé au moment, ils ont découvert, certainement, pour moi, la découverte la plus fabuleuse, un coffre en marbre sculpté, qui était effectivement une urne funéraire. Mais on sentait que le personnage qui s'était fait incinérer et dont les restes étaient dans ce coffre, était un personnage très important.
Et là, vous y étiez vraiment.
Et on était vraiment au moment où ça s'est passé.
Je me souviens, moi, de films d'années 70, j'étais trop jeune pour comprendre que tout était fake, où on voyait des films sur l'archéologie, on nous montrait des découvertes, on voyait un archéologue qui entrait dans une crypte ou dans une cave, et la caméra était à l'intérieur et le filmait en train d'entrer. Donc ça veut dire que quelqu'un était entré avant lui, voilà, et que ce n'était pas une découverte, mais j'étais trop jeune pour comprendre à l'époque. Merci d'avoir été honnête, vous restez avec nous, on va continuer à parler de ce documentaire et dire tout le travail que vous avez fait pour remettre en scène, grâce à la 3D, la Narbonne de l'époque, alias la Seconde Rome. Culture Média continue.
Europe 1, Culture Média.
En compagnie d'Alain Tixier, il signe ce documentaire Narbonne, la seconde Rome, dans le cadre d'une journée consacrée à l'archéologie sur Arte. Et ce doc passera demain à 20h50 précisément. Ce qui est spectaculaire, je l'ai dit, ce sont les reconstitutions en images de synthèse des sublimes villas romaines ou même de bâtiments commerciaux. C'est impressionnant. Et encore plus quand on voit une partie de ce sur quoi se fondent les archéologues. Quelques pierres, des fondations justement, rien de plus. Quelle est la part de l'imagination dans ces exercices de reconstitution, notamment pour les décors muraux, dont on a retrouvé parfois quelques centimètres carrés seulement.
Alors c'est vrai qu'il y a des difficultés lorsque l'on fait reconstituer en images de synthèse des bâtiments dont il reste 1 ou 2%, faut éviter ce qu'on va appeler, disons, l'archéopoésie. C'est-à-dire qu'il faut éviter de faire n'importe quoi parce que sinon les archéologues ne travaillerait plus avec nous. Non, donc effectivement, c'est sur des travaux scientifiques. Effectivement, il y a des gens des dessinateurs, des archéologues qui se sont penchés et qui, à partir évidemment, en comparant avec d'autres bâtiments connus, d'autres structures similaires, arrivent à retrouver le plus près possible, en fin de compte, les formes et les structures des bâtiments existants. Et à partir de là, nos infographistes ont travaillé sur des images qui avaient été données et des plans qui avaient été donnés par les archéologues. Donc la société qui a fait ces images de 3D sur le Capitole, sur les Domus ou sur le port, se sont quand même inspirés effectivement des travaux des scientifiques, des archéologues, et ont permis de faire des choses qui, a priori, n'imposent aucun problème, parce que le film a été vu par tous les archéologues qui ont travaillé sur Narbonne, et aucun nous a dit non, pas du tout, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Alors il est possible effectivement que la villa impériale, cette espèce d'immense villa que l'on trouve effectivement à Port-la-Nautique, qui aurait accueilli Auguste, qui est venu à Narbonne en 22 et 27 avant Jésus-Christ, cette villa impériale qui fait 128 mètres de long, qui est absolument immense, sur laquelle les archéologues travaillent déjà depuis plusieurs années, elle est tellement immense qu'il est quand même un peu difficile, effectivement, à partir même des éléments déjà très sérieux qui ont été découverts, d'en refaire une reconstitution exacte. Mais on s'est servi, en fin de compte, on le dit, hein, on s'est servi effectivement de plans ou de reconstitution de villas du même gabarit similaire que l'on trouve effectivement entre Rome et Naples ou à Capri, la Villa Tibère ou des villas de ce genre. Effectivement, c'était des villas à étages avec un lustre absolument incroyable, des bassins. Et donc celle-ci, effectivement, on est proche de la réalité, mais on n'est pas sûr qu'elle était exactement comme ceci.
Parce qu'il faut expliquer qui étaient les gens qui avaient ces grandes villas. C'était pas des citoyens de Narbonne, c'était des citoyens romains. C'était souvent des généraux ou des grands pontes des armées de César et qu'on récompensait à leur retraite en leur octroyant du terrain, une villa, et ils allaient, si j'ose dire, conquérir en soft power la Gaule. Les fouilles de la grande nécropole romaine ont pris fin en fin d'année dernière. Que va devenir le site ?
Ah, le site de la nécropole de la Robine. Donc, ces fouilles étaient faites sous l'égide de l'INRAP. Hein, donc, c'est l'archéologie préventive. C'est-à-dire que ce terrain à la périphérie de Narbonne était destiné, en fin de compte, à servir de support à 4 résidences. Mmh. 2 avaient déjà été construites et l'archéologie préventive a permis effectivement de s'apercevoir qu'il y avait cette immense nécropole qui était là et qui ont donc repoussé la construction des 2 buildings qui devait être construit de 2 ans. Alors la pandémie effectivement a fait perdre pour 6 mois aux fouilles et bien sûr automatiquement aux promoteurs qui devaient construire ces 2 bâtiments. Mais ça y est, maintenant tout est rebouché et maintenant il va y avoir 2 résidences qui vont être sur la nécropole.
Il y en a un petit peu de peine quand on voit le lycée Victor Hugo à Narbonne où on voit les fouilles, c'est absolument somptueux et maintenant c'est un terrain de basket et de handball. J'ai rien contre le basket ni contre le handball, mais c'est moins poétique. Alors vous suivez d'autres archéologues sur d'autres sites à l'Intixier de Narbonne. Ça vous permet de raconter comment fonctionnait la ville à l'époque romaine. Elle avait un port, vous l'avez dit. Vous avez cherché à comprendre quelle place elle occupait dans le commerce de l'époque. Et pour cela, vous êtes allé en mer avec une équipe d'archéologues. Parmi eux, il y a Franca Cibecchini, qui, lors d'une fouille menée par un robot sous-marin, a repéré une petite lampe en terre cuite, lampe sur laquelle on voit une inscription, le nom de celui qui l'a fabriquée.
On a eu vraiment un coup de chance. Ce nom du fabricant est connu. Et c'est un fabricant qui a recensé les timbres El Mun File correspond à Lucio Muniatus Filemo, un affranchi que travaille dans un atelier à Rome et qui est actif entre les 90 et les 130 après Jésus-Christ. Ce type de marchandises, ces lampes en particulier, on les retrouve dans plusieurs sites de toute la côte méridionale de la France jusqu'à Narbonne.
Vous avez souvent utilisé un drone pour tourner, ça vous permet d'avoir des vues aériennes de sites différents, ça donne une très bonne idée du plan et des proportions, vous n'auriez pas pu vous en passer.
Non, maintenant, effectivement, il est très difficile effectivement, de faire ce genre de film sans drone. Là, on a eu une chance extraordinaire, c'est un petit peu la seule chance liée à la pandémie. Ouais. C'est que les images que l'on a été faire à Rome et à Ostie, eh bien, il n'y avait personne dans les rues. C'est-à-dire qu'on avait un droniste italien qui était extraordinaire.
Je me suis demandé comment vous aviez fait d'ailleurs ces images de Rome désert, j'ai même pas pensé à la pandémie.
Aucun touriste japonais en train de photographier le Rome, c'est-à-dire qu'on était dans le Forum, le Colisée ou à Ostie, il n'y avait strictement personne. Ce qui nous a permis de faire des images, je veux dire, un petit peu exceptionnelles. exceptionnel.
Pas d'anti-japonisme primaire.
Non.
Arte a prévu une programmation spéciale demain pour les journées européennes de l'archéologie. L'archéologie, c'est un sujet qui marche bien sur la chaîne. Pour quelle raison? Eh bien, on a posé la question à Hélène Coldéfi, c'est la directrice de l'unité découverte et connaissances d'Arte France. Voici sa réponse.
Je pense que nous raffolons des histoires, en particulier celles multiples de nos origines, individuelles ou collectives. Et parce qu'enfin, le travail de l'archéologue est simplement fascinant. C'est une véritable enquête scientifique, complètement identique dans sa démarche à une enquête policière, avec son lot d'indices, de rebondissements, de suspense, de découvertes. En bref, beaucoup d'ingrédients, au final, qui attisent notre curiosité et excitent notre imagination.
Vous êtes d'accord avec elle, il y a du suspense ?
Ah, complètement. Ouais. De toute façon, moi j'avoue que c'était une véritable enquête, en fin de compte, puisque moi je suis arrivé complètement neuf sur Narbonne. Pour moi, Narbonne, c'était à l'époque de l'Empire romain, je ne connaissais absolument pas. Donc c'est une véritable enquête, donc il y a du suspense, de l'émotion, tout ce qu'il faut pour faire un film presque d'aventure.
J'allais justement vous parler de ça, vous venez de citer émotion. Souvent, les archéologues ont ce mot, c'est émouvant. Vous aussi, vous étiez ému parfois sur le tournage ?
C'est toujours un petit peu difficile, effectivement, lorsqu'on est un peu spectateur, que l'on filme et que l'on doit effectivement faire attention à ce qui se passe, de pouvoir conserver ses capacités d'émotion. Mais c'est vrai que, par exemple, la séquence où on trouve ce coffre, c'est une séquence émouvante, parce que, comme tout le monde, comme les scientifiques, comme les archéologues qui étaient là, c'est vrai que quand on ouvre ce coffre en marbre, on est un peu dans Indiana Jones, quoi.
Bien sûr.
A envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va découvrir. Ce qu'on a découvert, c'était...
Ne dis pas. Ce qu'on a découvert, vous le verrez dans Narbonne, la seconde Rome, c'est demain soir à 20h50 sur Arte. C'est signé Alain Tixier. Merci d'avoir été avec nous. On peut déjà le voir sur la plateforme gratuite arte.tv, c'est là où je l'ai regardé.